Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de JT Foot. Le TEF est encore tombé, après Rodez il y a 2 semaines, c'est Valenciennes qui a battu nos violets. Et encore une fois sur la plus petite des marges 1-0. Même si les circonstances sont différentes, on va devoir se pencher sur l'irrégularité du TEF depuis mi-février. Qu'est-ce qui fonctionne moins bien à Toulouse et est-ce que cela peut vraiment être inquiétant pour la fin de saison? Mais avant tout ça, des nouvelles du club de la Ville Rose, c'est l'heure du TEF Actu et c'est présenté par Jean-Cyan.
Salut Simon, alors avec sa défaite contre Valenciennes ce mardi, le TEF a laissé passer de précieux points dans la course à la remontée. Mais que les supporters se rassurent, le calendrier devrait à présent être plus favorable à nos violets. Dans les prochaines semaines, Toulouse va en effet affronter les 5 derniers de Ligue 2, à savoir Dunkerque, Pau, Guingamp, Chambly et Châteauroux, de quoi nous donner un peu d'espoir à 10 journées de la fin du championnat. Ce début de semaine marque aussi plusieurs recrutements pour le TFC, d'abord celui de Thomas Himmer, le gardien de 20 ans né à Toulouse et formé depuis ses 10 ans au club, vient de signer son premier contrat pro au TFC. Les puristes se rappellent peut-être de sa performance décisive en demi-finale de la Coupe Gambardella. Après sa signature, il a confié sa fierté de signer au club, même si pour lui, ça n'est que le début. Et il y a aussi du changement dans le staff violet. Brendan McFarlane vient de signer au TEF et devient le nouveau responsable du recrutement. Auparavant pensionnaire du Brentford FC en 2e division anglaise, il était responsable du recrutement France. Son rêve de travailler dans un club français est à présent exaucé.
Merci Jean-Cyan. Après un peu d'actu chaud, on va écouter les meilleures sorties footballistiques de la semaine. Et c'est Thomas qui s'en charge.
Brésil ou pas, on bat les couilles. Ronaldinho, machin chouette, rien à foutre.
Bonsoir Simon, bonsoir à tous. Alors au menu ce soir, de la castagne. On démarre très fort avec l'exceptionnel Jean-Marc Furlan. En conférence de presse, le technicien auxerrois a été questionné sur la méforme de la GIA. Il n'a pas du tout aimé et l'a très vite fait comprendre.
Je vais prendre une route parallèle pour te répondre. Tu es 5e, mon grand. Et ça fait 6 ans que vous vivez que le maintien. Donc quelque part, fermez vos gueules.
Une réaction, Simon?
C'est du Furlan tout craché. Et puis, on espère que ça va les réveiller un petit peu, quoi.
On espère aussi. On reste dans le même thème avec Laurent Koscielny. Jeudi dernier, le capitaine des Girondins de Bordeaux s'est présenté devant les journalistes. Remonté comme un coucou contre certains de ses coéquipiers, lui non plus n'est pas passé par 4 chemins.
L'ambiance est moyenne, voire très moyenne, il faut être réaliste. Après, vous êtes dans un groupe où il y a énormément de joueurs en fin de contrat, des joueurs qui veulent partir. Donc voilà. Faudra faire le ménage, être intelligent dans le recrutement.
Alors là, clairement, on peut tout sauf dire que le groupe vit bien. Pour finir, on se devait d'écouter le coach Garande. Alors forcément, il était déçu du revers hier. Comme nous, à la fin de la rencontre, il n'est pas parvenu à expliquer le but valenciennois.
Quand on revoit l'image, il y a ce ballon qui arrive, il n'est même pas fort. C'est un ballon qui est anodin, on est deux sur ce ballon-là. Il n'y a pas de rouge, il n'y a pas de duel, puis on laisse passer le ballon. Donc voilà, le mec derrière, il est tout seul, il marque.
Bon, soyons clairs, cette erreur, et on peut totalement l'imputer à De Vest, il va vite falloir qu'il se réveille hein, s'il ne veut pas shipper à Aurel le titre de pire recrue du TEF.
Ah, il est parti sur de bonnes bases, mais ça va être dur d'aller titiller l'Uruguayen.
Oh, Paris, oh, Toulouse.
Vous l'avez sûrement remarqué, il n'y a pas eu d'émission sur la victoire du TEF samedi face à Amiens. Alors un petit débrief rapide, une victoire nette et sans bavure, 3-0. Un spiring étincelant, une association Adli-Ili qui a parfaitement fonctionné, une défense solide. Mais alors comment est-on passé, après Ajaccio, d'une victoire maîtrisée 3-0 à une défaite frustrante 1-0? Les gars, ça fait 2 défaites à l'extérieur de suite et plus une seule victoire en Ligue 2 hors du stadium depuis le 25 janvier. Est-ce qu'il y a un problème au TEF avec les déplacements?
Ouais, je ne sais pas si on peut parler de problème avec les déplacements en ce moment. Avec la crise, il n'y a pas vraiment de supporters au stade. Donc, je ne pense pas qu'il y ait forcément de pression particulière sur ça. Moi, ce qui m'inquiète, parce que bon, le TEF fait une grosse saison, mais sur ce match-là, les choix de Patrice Garande, l'équipe... J'ai trouvé vraiment que ça manquait de cohérence dans cette composition, dans cette équipe hier.
Puis la stat que tu dis, c'est un peu la réalité du moment, quoi. C'est arrêté de l'instant, mais si tu regardes sur toute la saison, je crois que le TFC, c'est le premier à l'extérieur. Hein.
Je crois qu'ils sont passés 4e là.
Ouais, mais 22 points tous. Ils ont tous les mêmes résultats en termes de points. Donc, comme il a dit, domicile, extérieur, finalement, ça change quoi la distance pour aller au stade, quoi.
Ouais, c'est plus l'irrégularité, du coup, qui est en ce moment assez problématique. Mais c'est vrai que c'est une formation qui roule bien d'habitude, et notamment quand Garande fait tourner son équipe. On l'avait vu face à Bordeaux en Coupe de France. Mais là, les choix du coach Garande, ça n'a pas forcément été les bons, Axel.
Bah ouais, moi, je n'ai pas été d'accord déjà avec la titularisation de Bayo. Après, ce n'est pas un joueur que j'apprécie particulièrement, mais quand tu as un neuf qui avait bien planté, qui était en forme, là, en ce moment, on le met un peu en retrait. Je n'ai pas trop compris pourquoi il l'a mis avec lui. En plus, il n'y a pas vraiment de complémentarité avec Adli. Et puis en défense aussi, de Veste, je te laisse aller sur le sujet, Victor, je sais que t'avais envie d'en parler.
Ouais, défensivement, c'est pas... en fait, il y a le même problème devant et derrière. Je comprends pas, comme toi, Axel, pourquoi il est, même s'il a été blessé, on le remet pas titulaire assez rapidement. Là, il est en concurrence avec Bayo, alors que selon moi, sur cette saison, il y a quand même pas vraiment grand chose à dire sur la concurrence. Enfin, voilà, il est numéro 1, Bayo est numéro 2, ça me semble assez clair. Et défensivement, de Veste. On a mis Diakité, qui a 19 ans, qui est un super jeune joueur, qui a fait du bien, qui progresse, on l'a vu sur cette saison par rapport à ses entrées l'année dernière et sur ce début de saison. Il était en progression et là, on le remet sur le banc parce qu'on a recruté De Veste et qui, en plus, selon moi, ne fait pas des performances exceptionnelles. Il manque de vitesse, il manque d'anticipation et même physiquement, même à la tête, je le trouve un peu en délicatesse.
Puis on parlait de Pichoun. Il y a aussi Antiste hein, derrière Bayo et Illy.
Ouais.
Il faut tourner forcément, ils ont joué samedi, là ils ont rejoué aussi en début de semaine. Est-ce que Antiste aurait pu être une solution contre Valenciennes?
Hier, moi je comprends pas pourquoi Antiste ne rentre pas hier. Il est rentré à 72e, Bayo fait pas un bon match, il a quelques occasions qu'il rate. Il est rentré à la 72e. Antiste, il rentre pas du tout. Alors, ok, Antiste, il fait pas la saison de l'année pour l'instant, il fait pas des grandes rentrées.
Il y a eu des bons moments quand même.
Il y a eu cette saison, je sais pas, je le trouve un petit peu en dedans. Mais force est de constater que Bayo, il était pas au niveau hier soir, il fallait faire rentrer Antiste et il est plus tôt.
Surtout en fin de match, parce que là, ça manquait de créativité. Au début, il y avait pas mal de percussions, notamment côté gauche. À la fin, je vois que ça commence à ronronner, on a le ballon, on ne sait pas trop quoi en faire. Ouais. Et Bayo, pour le jeu, ça ne va pas aider. Alors que Antiste, typiquement, quand il rentrait, il était capable, lui, avec un petit éclair de génie, de dynamiter la rencontre. Ouais. Là, c'est ce qu'on n'a pas vu, c'est ce qu'il a manqué.
Et puis, transition toute trouvée, il y a eu un problème de réalisme sur ce match-là. C'est un peu aussi un peu bizarre pour la meilleure attaque de Ligue 2. Qu'est-ce qui a manqué et comment on peut expliquer ce manque de réalisme de la part des Toulousains?
Voilà, le manque de complicité entre Bayo et Adli hier, pour moi, il est criant quand tu regardes le match. Normalement, Adli, il tourne un petit peu autour de Bayo, de Ilé. Hier, ça n'a pas été le cas. Il est venu chercher très bas les ballons, Adli. Alors, il a des qualités techniques qui sont clairement incroyables. Il a fait un bon match, lui. Mais en fait, moi, le problème, c'est vraiment Bayo, hier soir, qui n'arrivait pas à se mettre dans le rythme d'Adli à côté, quoi.
Bah, surtout, il manque un vrai neuf, là, à ce moment-là.
Ouais.
Enfin, on a Bayo, mais on n'a pas le bon. Hein. On n'a pas le bon, hein. Parce que tu regardes celui de Clermont, il plante.
Nounos,
il a trois face à face. Il les a tous ratés. Il y en a où il fait une cagade, la balle limite, elle part en touche.
Ouais, moi j'aime bien quand il rentre Bayo, en fait. J'aime bien parce qu'il va apporter cet impact physique, même dans les coups de pied arrêtés. Il a un gros jeu de tête et il pèse sur la défense, mais surtout sur les 90 minutes où tu joues une équipe de Valenciennes, tu sais que tu vas dominer. Et quand tu domines, tu as besoin de garder le ballon et de combiner devant. Et Bayo, il sait moins bien le faire que il est.
Bon, on va terminer sur cette note positive pour Bayo. Fini l'analyse, il va falloir trancher. On passe tout de suite au top et flop de ce match.
Vous allez peut-être être surpris par ma saucisse.
Peut-être le plus compliqué à faire lors d'une défaite. Victor, qui a été le meilleur Toulousain hier soir?
Alors selon moi, c'est j'ai choisi Manu Koné. Alors, il n'a pas joué les 90 minutes, il est rentré à la pause. Mais il remplace un Spirings qui est fantomatique sur cette première mi-temps. Et je trouve qu'il le fait très bien. Il percute, il a pesé sur le milieu valenciennois qui a un petit peu mangé au début de match le TEF. Et donc, Manu Koné, pour moi, a été très, très intéressant, notamment dans son animation offensive.
Toi, Axel, peut-être un autre pitchoun?
Non, pour moi, ça va plutôt être Machado que je vais mettre en avant. Parce que franchement, s'il y avait eu des offensives, ça venait surtout du côté gauche. Un peu d'Adli, mais beaucoup de Machado. Dommage que ses centres ne soient pas toujours appliqués, mais le nombre d'appels, le nombre de percées qu'il a fait, il a vraiment fait mal à Valenciennes. Il s'est un peu essoufflé sur la fin de match, malheureusement. Mais non, moi je vais quand même rendre hommage à Machado pour son match.
Bon, bah, là, vous allez avoir l'embarras du choix, les gars. Et pour toi, Axel, qui a fait le plus mauvais match ?
Moi, celui qui m'a dégoûté hier soir, c'était Bayo. Vraiment, pour moi, il ne peut pas rater autant. Quoi.
Là, c'est une émission spéciale Bayo, on l'a compris.
C'est vrai, le pauvre. je vais en trouver un autre.
Vas-y, bah, je te laisse. Bah,
je vais choisir Sébastien de Vest, derrière. Parce qu'en fait, depuis qu'il est arrivé au TEF, alors il a fait peut-être une bonne mi-temps, mais à chaque fois, je lui trouve les mêmes problèmes. Il manque de vitesse, il est lent, il anticipe pas. Et en plus, alors on nous l'a vendu comme un joueur physique qui a de l'impact, c'est la deux ou troisième fois que je le vois se faire manger par un attaquant qui est physiquement plus fort que lui. Hier, c'était Guillaume. C'était arrivé avec d'autres joueurs avant. Et donc voilà, pour moi, c'est vraiment pas une bonne recrue pour l'instant.
Ouais, je suis d'accord. Hein. Je ne pensais pas dire ça, mais vivement le retour de Gabrielsen quand même. Ouais.
Que... Déjà Gabrielsen et Diakité sur le banc, on ne comprend pas.
Bah merci les gars. Prochain match du TFC vendredi à 21h pour les 16e de finale de la Coupe de France. Le TEF se déplacera au Bagne. L'émission touche bientôt à sa fin, mais pas de panique. C'est d'abord l'heure du tant attendu quiz. Et pour nous poser des questions cette semaine, le maître de la discipline, celui qui va vous chercher des joueurs du TEF des années 30. Julien, qu'est-ce que tu nous as préparé aujourd'hui ?
Simon, tu connais Nicolas Sarkozy ?
Évidemment.
Ouais, il a eu des soucis avec la justice cette semaine.
Oui.
Bon, il a fait appel, pour l'instant il est toujours présumé innocent. Mais d'accord. Ça m'a donné envie de m'intéresser à ces joueurs de foot qui ont eu des problèmes avec la justice.
Donc, on va voir... Une très belle émission.
Oui. Vous connaissez les casiers judiciaires des joueurs de foot ?
Ça promet.
Ça promet.
Ça promet.
Mais il y a des belles histoires.
Oui, la plupart. Enfin, des belles, je sais pas, mais.
Il y a eu beaucoup de non-lieux. La plupart sont au final innocents, rassurez-vous. Alors on va commencer avec un joueur qui a été condamné pour ce qu'il a fait sur le terrain. Enfin, pas tout à fait, pour ce qu'il a fait à côté du terrain. Il a d'ailleurs eu 2 mois de prison avec sursis et été condamné à 120 heures de travaux d'intérêt général. Car il a mis un high kick.
Eric Cantona.
Ah ouais,
bien sûr. Eric Cantona, tout à fait. Tout à fait. Et aussi suspendu 9 mois par la Fédération anglaise de football. Ensuite, un ancien joueur des Girondins de Bordeaux et de l'Olympique de Marseille, qui a été champion de France avec les deux clubs. Non, ça vous dit rien. Il a été soupçonné d'avoir été l'instigateur d'une opération d'extorsion d'argent en 2015.
Mais c'est ça.
50 000 euros en tout. Et finalement, les 50 000 euros sont transformés en une BMW. Il a été relaxé, mais son frère a été condamné à 18 mois de prison avec sursis.
C'était Diawara, du coup.
C'était Souleymane Diawara.
Ouais, il avait fait un tour au Beaumet et tout.
Oui, ouais. je crois. Bah oui, le temps de son jugement, tout à fait. Ensuite, alors on va remonter un peu dans le temps avec un joueur qui est à la retraite depuis bien longtemps, qui a gagné la Coupe du Monde avec son pays en 1974 et 3 Ligues des Champions d'affilée avec son club, le Bayern Munich. Il a d'ailleurs pris la direction du club en 2009.
Rummenigge. Oh.
Non, pas Rummenigge. Et puis il l'a quitté car il était soupçonné en 2013 d'avoir caché plus de 10 millions d'euros au fisc. Il a finalement été condamné pour avoir dissimulé non pas 10 mais 28 millions d'euros et condamné à 3 ans et demi de prison.
C'est pas une
non, il ne fera finalement que 7 mois. Tu as dit
Beckenbauer.
Non, c'est pas avec Beckenbauer.
Non, Eunès.
Uli Eunès.
Ouais, c'est Axel à la régie qui me dit n'importe quoi.
Un point pour Axel à la régie. Voilà.
Non, c'est lui, il m'a dit n'importe quoi, mais oui, c'est Eunès.
C'est Uli Eunès, tout à fait. Et le dernier, champion de France avec Lens en 1998.
Tony Vérel.
Okay. C'est pour sa coupe de cheveux.
Non, c'est pas pour sa coupe mulet qu'il a failli aller en prison. D'ailleurs, il est toujours en attente de son jugement.
Ouais.
Il était sur les lieux d'une fusillade en 2011 dans une discothèque. À l'époque, on appelait ça une discothèque dans la banlieue de Nancy.
À l'époque où ça existait.
Ouais. Oui, c'est ça.
Ça existait, c'est vrai. En tout cas, on a tout ça de retourner dans une discothèque. Peut-être pas certains joueurs de Toulouse, comme parce qu'ils gardent un bon niveau sur le terrain en étant sobre.
T'as raison.
Mais merci Julien et victoire de Victor sur ce quiz. C'est la fin de cet épisode EJT Foot. Merci encore à nos chroniqueurs et à Axel à la technique. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. En attendant, n'hésitez pas à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, Twitter, Facebook et évidemment sur notre site internet. En attendant, prenez soin de vous. Ciao.